Radio Okapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Voici tout de suite le sommaire. La couverture santé universelle doit être une priorité absolue et il faut réserver annuellement au moins 15% de budget pour ce secteur. C'est ce que recommande le chef de l'État au gouverneur des provinces. Félix-Antoine Tshisekedi clôturait hier la 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi. La MONUSCO reste disposée à apporter des appuis nécessaires à toutes les initiatives de paix en cours en vue de parvenir à une solution pacifique à la crise actuelle en RDC. Déclaration de la chef de la MONUSCO devant la presse hier à Goma, Madame Bintou Keïta l'a dit à l'issue de sa rencontre avec la délégation de l'AFC M23. Et puis, journée mondiale de don de sang, c'est aujourd'hui 14 juin. Au Nord Kivu, cependant, le centre provincial de transfusion sanguine est buté aux défis sécuritaires et économiques notamment, ce qui complique la couverture en transfusion sanguine sécurisée. Pour en parler, nous recevons Dr Daniel Mazimé, chargé de suivi et évaluation au CPTS Nord Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, recommande à chaque gouverneur de faire de la couverture santé universelle une priorité absolue et de réserver annuellement au moins 15% de leur budget pour ce secteur. Recommandation faite hier lors de son discours marquant la clôture de la 12e conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi, une conférence qui a accordé une part belle au secteur de la santé. Félix-Antoine Tshisekedi sollicite également l'engagement des uns et des autres pour une mobilisation remarquable dans le but de protéger tout enfant congolais de l'infection liée au VIH-Sida. On écoute le président Félix-Antoine Tshisekedi dans cet extrait proposé par Billy Van Lutumba.
Au terme de cette 12e session de la conférence des gouverneurs, vous avez fait preuve de lucidité et responsabilité pour analyser les défis majeurs auxquels fait face notre système de santé et pour proposer des recommandations pertinentes et réalisables. Dans chaque province, dans chaque territoire, l'accès à la santé est une mesure tangible de dignité humaine, de stabilité et de progrès social. Lorsqu'un enfant naît dans de bonnes conditions, lorsqu'un paysan reçoit des soins sans s'endetter, lorsqu'un jeune accède facilement à des services médicaux de qualité, c'est toute notre nation qui avance et qui retrouve confiance en son avenir. Je m'engage à veiller à ce que les recommandations issues de vos travaux soient traduites en actions concrètes et suivies rigoureusement. Je souligne particulièrement l'urgence de renforcer notre lutte contre le VIH-Sida pédiatrique pour offrir à nos enfants une protection digne et équitable.
Signalons que, comme par le passé, le président Félix-Antoine Tshisekedi est revenu une fois de plus sur son rappel aux gouverneurs et aux assemblées provinciales quant à la nécessité impérieuse de préserver la stabilité institutionnelle, surtout en cette période de guerre d'agression dans la partie est de la RDC. C'était peu avant d'annoncer la tenue de la prochaine conférence des gouverneurs en décembre prochain dans la province du Kwilu. Aujourd'hui, 14 juin, le monde célèbre la journée mondiale de don de sang, placée sous le thème « Donner du sang, donner de l'espoir, ensemble sauvant des vies » en RDC. Selon le programme national de transfusion sanguine, de 2000 à 2024, le don bénévole de sang est passé de 11% à 36%, soit une hausse de 25% en 24 ans. Invité du magazine Parole aux auditeurs d'hier vendredi, le directeur adjoint du programme national de transfusion sanguine, Dr Paul Kabamba, revient sur les stratégie mise en place par le gouvernement pour sensibiliser la population à donner bénévolement du sang et les difficultés rencontrées au sein de la communauté. Dr Paul Kabamba est au micro de Marcel Ngombombala.
Les bilans en ce qui concerne les dons de sang, nous savons que l'OMS recommande à ce que 80% des unités transfusées doivent provenir de donneurs bénévoles de sang. Mais la RDC est encore très très loin, n'a pas encore atteint 50%. Il y a beaucoup de besoins, le besoin est immense par rapport à cette denrée qui est le sang. Mais il y a beaucoup de facteurs qui expliquent. D'abord, le pays, c'est un pays aux dimensions continentales qui fait que les infrastructures ne s'y prêtent pas pour avoir assez de matériel pour la conservation des produits sanguins, des unités de sang. Mais ce qui est sûr, c'est que le pays fait des efforts. Vous savez, le ministère de la Santé fait des efforts par son programme national de transfusion sanguine. On utilise beaucoup de stratégies pour remonter encore, mais il y a toujours des obstacles, des faits qui arrivent, qui font en sorte que non, cette montée-là est timide. Elle était très, très, très vite à la création et 5 ans après, mais avec l'enlisement des choses, je crois que ça monte timidement, timidement, avec tout ça comme facteur qui freine en fait le développement d'un bénévole de sang en RDC. À la création, quand on a créé le programme national de transfusion sanguine, le programme s'est donné des stratégies de base et des stratégies de soutien. Parmi les stratégies de base, nous avons la mobilisation de la communauté au don de sang.
Santé toujours, le taux de prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 mois est passé de 44% en 2017 à 57% en 2025 dans l'ensemble de l'Ituri. Ces statistiques ont été livrées hier à Radio Kapi Bounia par le responsable provincial du programme national de nutrition Pronanut. Cela 2 jours après la réunion provinciale de redynamisation multisectorielle de nutrition. L'insécurité qui sévit dans cette province et les mauvaises conditions alimentaires dans plusieurs régions sont les principales causes de la malnutrition en Ituri. Le point avec Martial Kizabiamongo.
Tous les 5 territoires de l'Ituri sont affectés par cette hausse des cas de malnutrition chronique qui sont à la base du retard de la croissance chez les enfants. Les responsables provinciaux du programme national de nutrition Pronanit indiquent que le territoire de Djougou est le plus affecté par cette maladie à cause de l'insécurité permanente dans cette région, ce qui ne permet pas aux habitants d'accéder à leurs champs, avec comme conséquence la pauvreté dans plusieurs familles. Le docteur Cosma Bakemanga appelle les parents à respecter l'allaitement maternel chez les enfants de moins de 6 mois et la variation de l'alimentation pour ceux qui sont les plus âgés.
On doit travailler la main dans la main pour que nous puissions arriver à contribuer à la réduction sensible. Parce que si nous prenons seulement la santé et que l'eau n'est pas de bonne qualité et qu'on ne produit pas, il n'y a pas une production, bon, la sécurité alimentaire va être affectée et ça peut poser des problèmes. Parce que la nutrition, c'est un élément de la sécurité alimentaire. Alors, quand on ne tient pas compte des autres secteurs, je pense que ça ne va pas marcher. Et c'est ça la situation que nous avons.
Cependant, il se réjouit de la diminution des cas de malnutrition aiguë, globale, sévère et modérée chez les enfants sur la même période de 11 à 9%. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la MONUSCO reste disposée à apporter des appuis nécessaires à toutes les initiatives de paix en cours en vue de parvenir à une solution pacifique à la crise actuelle en République démocratique du Congo. Ce sont en substance les propos de Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO. Elle était devant la presse hier vendredi à Goma. Ses propos sont contenus dans le communiqué sanctionnant la rencontre avec la délégation de l'Alliance Fleuve Congo, FCM23. On écoute Madame Bintou Keïta.
Je suis venue à Goma dans un esprit d'écoute et d'échange. Cette visite intervient à un moment critique, dans un contexte de tension persistante. Il y a quelques jours de mon briefing devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, j'ai rencontré le leadership de l'Alliance Fleuve-Congo, AFC-M23. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une continuité d'efforts conjoints entamés depuis quelques mois au profit de la population. Comme vous le savez, avec la facilitation du CICR, du gouvernement congolais, de l'AFC M23 et de la MONUSCO, 1359 éléments des FARDC et de la PNC ont été transférés de Goma à Kinshasa. La MONUSCO reste engagée à appuyer toutes les initiatives susceptibles de favoriser une désescalade des tensions. Les responsables de l'AFC M23 ont exprimé leur volonté de trouver une solution pacifique à la crise.
Pendant ce temps, au sud Kivu, les récents affrontements qui ont opposé les FARDC à la coalition des groupes armés Tuiruaneo Red Tabara M23 à Rugezi dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fizi il y a 5 jours ont provoqué le déplacement massif des populations dans la région. L'administrateur de Fizi affirme que certains ménages ont pris la direction vers Uvira. Détail avec Grace Amzati.
Des informations non confirmées par les sources officielles indiquent que se déplacer en direction d'Uvira ont été indexés par les Wazalendo comme appartenant au mouvement rebelle des hauts et moyens plateaux de Fizi. L'administrateur du territoire de Fizi précise que des déplacés, toutes communautés confondues, ont fui les combats des Rugezi dans différentes directions. Sami Kalonji Badibanga.
Certains sont regroupés dans des villages environnants, d'autres se dirigent vers les territoires voisins d'Uvira. Certaines informations confirment qu'il aurait un groupe de déplacés internes. Banyamulenge est pris pour cible par les Wazalendo. Quand il y a un mouvement de déplacement de la population, ce sont les Banyamulenge, les Bembe, les Furiru, les Reka qui se déplacent ensemble. Je lance un message de paix à ma population de Fizi, de comprendre que nous sommes tous frères et sœurs. Nous devons privilégier la paix et la cohabitation pacifique pour barrer la route à nos ennemis.
Des sources proches de la mairie d'Uvira déclarent que tout citoyen congolais, quelle que soit sa communauté d'origine, a le droit de se mouvoir librement vers un lieu de sa préférence sans en être inquiété. Toutefois, les mêmes sources recommandent aux services de sécurité de contrôler minutieusement les mouvements des populations pour détecter le suspect qui se cacherait parmi les déplacés civils.
Province de l'Équateur, la coordination provinciale du panel des experts de la société civile de l'Équateur continue d'exprimer sa vive inquiétude face à l'impunité qui entoure la mort le 5 juin dernier de deux enseignants en détention à Lutumbe dans le secteur de Douali, territoire d'Ingende. Dans un communiqué, cette structure demande que justice soit faite. Écoutez les explications de Dieu Merci Akulamboyo, secrétaire rapporteur, coordination provinciale du panel des experts de la société civile de l'Équateur. Il est au micro d'Alain Ronc.
Selon les informations recueillies, ces deux enseignants avaient été arrêtés pour une dette contractée auprès d'un commerçant local. Ils ont été détenus légalement pendant plus de 4 jours avant qu'un autre citoyen arrêté pour trouble à l'ordre public ne soit placé dans la même cellule qu'eux. Suite à une altercation verbale avec les agents de l'ordre, des coups de feu ont été tirés dans les cachots, entraînant la mort immédiate des enseignants. La coordination dénonce avec fermeté la détention arbitraire et prolongée en violation du droit congolais, l'usage illégal et excessif de la force par des agents de l'ordre, les silences institutionnels face à une situation aussi grave. Nous exigeons ainsi une enquête indépendante et transparente, la suspension immédiate des policiers impliqués, une prise en charge médicale et psychologique des victimes et de leurs familles, des sanctions exemplaires à l'encontre des coupables, afin de prévenir de nouveaux drames. La vie des citoyens ne peut plus être sacrifiée sur l'autel de l'impunité. Nous appelons les autorités provinciales et nationales, les bureaux conjoints des Nations Unies pour les droits humains, l'UNESCO, l'UNICEF et tant d'autres partenaires internationaux à se saisir de ce dossier avec la plus grande urgence.
Nous n'avons pas réussi à joindre la police pour avoir sa réaction dans ce dossier. L'Assemblée nationale a adopté jeudi le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la police nationale congolaise pour une période allant de 2026 à 2030. Au cours de l'examen du rapport de la commission défense et sécurité que dirige le député national Rubens Mikindo relatif à ce projet de loi, les députés nationaux sont restés unanimes qu'il faut des réformes pour rendre la police efficace. S'inscrivant dans le cadre de la réforme globale du secteur de sécurité de la RDC, ce projet de loi a subi quelques amendements dont le budget est passé de plus de 2 500 000 dollars, soit un accroissement de 11% comparé au budget initial. Explication, Michel Kifindangoy.
En croire le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, cet accroissement du budget est principalement dû à la planification des constructions de 1046 commissariats de la police dans les ETD et la formation en 5 ans de 5 000 à 10 000 policiers. Rubens Mikindo.
Le très faible financement de la police reste le principal obstacle à l'avènement ou à l'avancée de la réforme. Et puisque le gouvernement fait de ce budget programme un levier de transition vers une police républicaine, la Commission défense et sécurité s'est attardée à rechercher la cohérence entre les affectations prévues et la réforme projetée.
Les députés nationaux soutiennent ces réformes en vue de permettre la police à sécuriser la population dans tous les coins du pays.
Pour avoir une bonne capacité opérationnelle policière, par exemple, dans la commune de Boulongo, à Beni, au nord Kivu, la commune n'a que 18 policiers qui n'ont ni jeep, qui n'ont ni moto. Et nous avons l'occasion ici qui nous est donnée, c'est d'accepter ces réformes.
Après son adoption à l'Assemblée nationale, le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police pour une période allant de 2026 à 2030 est envoyé au Sénat pour une seconde lecture.
L'actualité, c'est aussi le forum DRC Mining Week à Lubumbashi. La compagnie aérienne South Africa Airways, SAA, participe pour la première première fois à ce forum minier. La country manager de cette compagnie sud-africaine en RDC explique l'importance de la DRC Mining Week. Selon elle, ce forum minier présente beaucoup d'opportunités pour sa compagnie. Chantal Serrao s'est confiée au micro de Paulin Munanga.
C'est la première fois que nous venons à RDC Mining Week. C'est intéressant puisque ici, on rencontre les dirigeants des mining et tous les gens qu'on ne sait pas atteindre facilement. Il y a eu beaucoup de visites, on parle, on discute. On a eu quelques contrats pour les discounts de vol. Et on a trouvé qu'il y a vraiment beaucoup de sociétés. On a rencontré beaucoup de clients, sachant que la compagnie aérienne transporte le passager et leurs biens. Chez nous, c'est la plupart des clients qui nous connaissent, qui viennent demander est-ce qu'on a combien de vols et quelles sont les destinations. On leur donne les destinations. On a plusieurs destinations en Afrique et surtout dans les pays où il y a le mining.
Actualité internationale.
Le seul survivant de l'accident de Air India, survenu jeudi à Ahmedabad, en Inde, raconte son expérience bouleversante. Éjecté des débris, il s'est approché d'une ambulance pour demander de l'aide. En interview, il a confié, je le cite, « Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis senti vivant. J'ai réussi à détacher ma ceinture et à m'enfuir. » Fin de citation. Le crash qui a fait 265 morts à bord et plusieurs victimes au sol est survenu peu après le décollage, percutant une résidence universitaire dans un quartier résidentiel d'Ahmedabad en Inde.
L'invité.
Nous sommes au Nord Kivu. Le Centre provincial de transfusion sanguine célèbre la Semaine mondiale du donneur de sang dans un contexte marqué par divers défis sécuritaires et économiques, entre autres. Conséquence, la couverture en transfusion sanguine sécurisée durant ce premier semestre 2025 atteint à peine 50%. Sous le thème « Tous unis par le don de sang », le Centre provincial de transfusion sanguine renforce la sensibilisation, notamment pour mobiliser les donneurs et appeler à plus de soutien dans leurs opération. Pour en parler, nous recevons le chargé de suivi et évaluation au Centre provincial de transfusion sanguine au Nord Kivu. Docteur Daniel Mazimé répond aux questions de Bernardin Nyangi.
Docteur Daniel Mazimé, bonjour.
Oui, bonjour.
Quel est l'état des lieux que vous faites aujourd'hui de vos activités liées à l'approvisionnement en besoins à sang au Nord Kivu?
Alors, merci beaucoup. Par rapport à l'état des lieux aux activités transfusionnelles dans la province du Nord Kivu, actuellement, comme vous le savez, nous avons une pénurie en produits sanguins. Pour la partie couverte par notre centre de transfusion de Beni, ainsi que les centres de transfusion sanguine de Butembo, nous avons une pénurie là-bas beaucoup plus. Et cela s'explique par le contexte que nous traversons dans les milliers. Tandis que dans la partie sud, il y a le centre de transfusion sanguine de Rutshuru et celui de Goma, qui est ce un peu tant soit peu de subvenir aux besoins, des nécessités, mais cela aussi nécessite encore un plus.
Par rapport aux donneurs, est-ce qu'il y en a?
Les donneurs, il y a eu des mouvements de donneurs et cela a impacté aussi négativement dans nos activités, ce qui fait que le produit sanguin, retrouver les poches, ce n'est pas facile. Et ceux qui sont là, ils essaient de venir, mais les dons comme on l'en avait auparavant, ce n'est pas la même fréquentation que nous avons actuellement.
Nous savons que nous vivons dans une zone où il y a vraiment un besoin. Quel est le taux de la couverture que vous pouvez estimer?
Tous les besoins ne sont pas couverts et d'ailleurs, raison pour laquelle une alerte encore que nous faisons par rapport aux donneurs. Vous allez voir la couverture en transfusion sanguine sécurisée. Nous nous sommes fixés l'essai au moins d'atteindre au moins 90%. Mais actuellement, nous sommes vers 50%. C'est quelque chose qui n'est pas bon par rapport aux transfusions sécurisées dans notre province du Nord Kivu.
Oui, est-ce qu'il y a des défis qui peuvent faire à ce que vous ne puissiez pas atteindre cet objectif?
Oui, les défis, il y en a. C'est beaucoup plus à l'accès aux zones les plus difficiles. Les zones les plus difficiles nous posent souci, ce qui fait que nous puissions enregistrer beaucoup de dons familiaux dans certaines zones de santé. Et c'est là, lorsque ce sont des dons familiaux, allez-y comprendre que et les tests qui seront réalisés et les examens qui sont faits, nous mettons un point d'interrogation là-dessus et cela n'est pas un don sécurisé pour les patients. Mais aussi, nous avons constaté aussi les dons payants dans certaines zones de santé, beaucoup plus dans les secteurs du Grand Nord, dans les zones de santé de Kamango, Mutuanga, nous avons constaté des dons payants, quelque chose que nous devons décourager parce que les dons doivent être bénévoles et parce qu'on veut sauver la vie de son voisin ou de son frère.
Et quand vous parlez de dons familiaux, donc ce n'est pas autorisé?
Effectivement, avec la politique transfusionnelle de la RDC, les dons familiaux ne sont pas autorisés, ainsi que les dons payants. Nous travaillons avec la politique des dons bénévoles distant dans la République démocratique du Congo.
Et quand on recourt à ça, est-ce que c'est à cause des contraintes?
Oui, quelque part, c'est à cause des contraintes. Parce que lorsqu'on n'a pas accès suite à certains contextes que nous traversons, on ne sait pas arriver au lieu d'approvisionnement. Et là, on recourt rapidement aux dons familiaux. Et donc, c'est un appel pour que les structures ou les établissements de soins de santé puissent trouver accès facile aux centres de transfusion sanguine afin de s'approvisionner.
Oui, quel est le message de sensibilisation que vous avez en cette occasion de la célébration?
En cette occasion, au courant de cette année 2025, nous sommes en train de célébrer la journée mondiale des donneurs de sang, qui est reconnu sur le plan international chaque 14 juin. Au courant de cette année, nous sommes en train de célébrer la JMDES sous le thème « Tous unis par les dons de sang ». C'est le thème que nous avons retenu au courant de cette année. Et nous, particulièrement dans la province du Nord Kivu, nous avons procédé à partir même du lundi, comme le 14 tombe un samedi, un jour non ouvrable, nous avons procédé à partir du lundi 9 jusqu'au 13 à une semaine dédiée justement à la JMDS en général. Et c'est une semaine auquel nous ne faisons que des collectes qui sont organisées dans des sorties dans la communauté, ainsi que des collectes au niveau des centres que nous appelons les cabines fixes.
Docteur Daniel Mazimo, merci.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.